des polars et des notes.
Travailleuses, travailleurs, vacancières, vacanciers, bonjour et bienvenue sur Radio Évasion pour ce des polars et des notes estivales, post- et pré-caniculaires. Après toutes ces alertes météo qui ont émaillé la fin juin et le début juillet, nous allons justement nous intéresser aux lanceurs d'alerte. La littérature noire s'empare de plus en plus de ce sujet très tendance. Et, il a beau faire grincer des dents, ceux qui se voient désignés à la vindicte populaire, précipiter le vote de loi écrite sur mesure afin de bâillonner les courageux qui essaient de dénoncer quelques secrets. Et les affaires finissent par tomber dans le domaine public, et c'est tant mieux. Ce qui ne nous empêchera pas de faire un petit tour à Naples, vacances tout de même, ou à Nantes pour d'autres intrigues tout aussi goulayantes. Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les références des romans sur le webzine 404. Donc inutile d'ouvrir les yeux pendant votre sieste pour prendre des notes, et pour le son, c'est Yann qui s'y colle. Un petit tour de passe-passe et nous voilà en 1932, en pleine Italie fasciste, plongés dans l'enfer du commissaire Ricciardi de Maurizio Di Giovanni, paru aux éditions Rivage dans la collection Rivage Noir. Il fait une chaleur de four irrespirable sur la ville où un éminent professeur en gynécologie est retrouvé mort au pied de l'immeuble de l'hôpital. Accident ou suicide? C'est ce que va essayer de déterminer le commissaire Ricciardi et son adjoint, le major Maione. Oui, c'est une enquête. Oui, il y a du suspense, de fausses pistes, des rebondissements. Mais ce roman est avant tout une formidable histoire d'amour, décrite avec une finesse inouïe. Des histoires d'amour, d'ailleurs, au pluriel. Des amours malheureuses, bien sûr. Les heureuses n'ont pas d'histoire. Magnifiquement écrit et à découvrir absolument. Tiens, j'en suis encore tout ému. Summertime Blues de Eddie Cochran. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler. About a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
J'espère que vous avez bien fait ripaille ces derniers temps et que vous en avez profité parce qu'apparemment, si on en croit le dernier roman de Chantal Pelletier, Nos derniers festins, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, ça ne va pas durer. L'intrigue nous expédie directement en 2044 en Provence et la police diététique surveille et sévit. Gare aux sauces grasses et aux desserts à l'indice glucidique indécent. Bonjour Chantal Pelletier.
Bonjour.
Dites-moi, il est un petit peu terrifiant ce futur où nous serons autant pourchassés dans nos assiettes qu'un automobiliste sur une départementale.
Écoutez, oui, mais bon, reste quand même l'esprit français où il va y avoir toute une organisation qui va essayer de contourner les lois, quand même, c'est ça, je pense, surtout l'axe du livre, c'est-à-dire comment on détourne des lois qu'on ne peut pas qu'on ne peut guère supporter longtemps. Alors donc, effectivement, j'ai inventé un permis de table à points qui est connecté sur la carte de sécurité sociale et donc sur le bilan de santé et qui a interdit la consommation de certains mets aux gens qui ont des analyses de sang pas tout à fait parfaites. Et ça me paraît d'une forme de logique, si vous voulez, mais en réalité, je parlais de nourriture sans doute pour parler d'autre chose. Enfin, c'est pas sans doute, c'est même certainement pour parler d'autre chose, parce que en fait, c'est l'idée de la désolidarisation de notre société, c'est-à-dire l'idée que
il faut assumer ses
risques.
On ne
veut plus payer pour les autres. C'est-à-dire, les gens font des excès, tant pis pour eux, les autres, ceux qui sont raisonnables, tout ça, bien sûr, entre guillemets, eh bien, ne veulent plus payer pour ceux qui ont des conduites qui ne sont pas irréprochables.
Enfin, c'est surtout ceux qui ont les moyens qui ne veulent pas payer pour les autres.
Ah, ben alors ça, c'est encore autre chose, parce que, d'autre part, plein de choses sont interdites à la consommation pour plein de raisons, pour préserver la planète, pour le bien-être animal, pour la santé, comme vous l'avez dit, les choses doivent être diététiques, écologiques, etc. Mais effectivement, quand on a les moyens, on peut toujours passer outre et s'offrir quelques gueuletons dans des restaurants clandestins qui en profitent sans doute pour vous donner des additions salées, ça c'est sûr.
Alors donc, vous plantez bien le décor, c'est-à-dire qu'avec le dérèglement climatique au début de votre roman, il fait une chaleur de four, thermostat maximum.
En réalité, vous savez, j'ai peut-être été très optimiste, parce qu'en fait, c'est des températures que nous avons eues en Provence cet été, hein, d'ores et déjà, et en plus au mois de juin, comme dans le livre. Alors, je ne sais pas si j'ai été, à mon avis, j'étais un petit peu trop optimiste.
Bah, c'est un peu ça, c'est dur de faire de la fiction écologiste pour le moment. Et donc, qui dit prohibition, donc il y a plein de choses interdites ou limitées, qui dit prohibition dit trafic. Et dans votre roman, on découvre avec stupeur une mafia du camembert, un trafic de foie gras et des attentats véganes.
Oui, des attentats contre des boucheries, contre des abattoirs, etc., pour défendre, c'est-à-dire pas forcément seulement les véganes, mais aussi les antispécistes. Enfin bon, il y a toute une forme si vous voulez, chacun a des convictions et chacun est prêt à les défendre avec violence. C'était ça l'idée. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'idée n'est pas forcément de parler d'alimentaire, mais de parler aussi d'autre chose. C'est-à-dire que on arrive à un moment où on s'insulte facilement, on se déteste très vite, enfin, etc. Donc pourquoi ça ne se produirait pas sur le plan alimentaire et sur le plan simplement du partage, de la table, parce que la table, c'est quand même la scène des rapports humains par excellence. Donc à partir du moment où c'est plutôt la haine avec des positions extrêmement tranchées, où le dégoût s'affiche devant ce que mange l'autre, enfin bon, etc., ça me semble assez symbolique de notre époque. C'est-à-dire l'idée que le futur, il est déjà un petit peu là, quand même.
Il est entamé, ouais. Et comme c'est un polar, bien sûr, il y a un meurtre, avec une arme du crime qui est assez extraordinaire, c'est une blanquette de veau. Et ce sont deux inspecteurs alimentaires, c'est pas leur boulot, mais ce sont eux quand même qui vont s'attacher à l'enquête. Alors il y a un personnage qui est extraordinaire, c'est Anna Janvier, qui est truculente, qui est gentiment corrompue, qui est gourmande de tout, qui bouffe la vie à pleines dents, alors qu'elle est là pour empêcher les gens d'en profiter. Et elle a un nouvel adjoint qui est Ferdinand Pierrot. Et lui, alors là, c'est le contraire, il est allergique à tout, règlement, il est complètement obstiné sur les trucs. J'ai l'impression qu'il est un peu là pour jouer les candides.
C'est-à-dire que l'idée de ce couple, pour moi, c'était un petit peu des personnes qui peuvent toutes les deux appartenir au présent ou à ce futur proche, mais surtout elle qui représenterait quelqu'un de très ancré dans le terroir, qui connaît tout le monde, qui est encore dans une relation humaine où on peut toucher les gens, les reconnaître, enfin des relations très 20e siècle, disons. Et puis quelqu'un qui est déjà l'homme du futur, qui mange déjà une nourriture de cosmonaute, qui est prêt, disons, à quitter la planète et qui est dépourvu de toute sensualité, puisque le moindre brin d'herbe, le moindre excès de température, enfin tout l'indispose. Il est absolument pas adapté enfin il n'a rien de terrien, disait, il est déjà un petit peu extraterrestre, voilà.
Il est hors sol.
C'est ça mon idée, oui.
Donc la victime, Jérôme, elle ne travaille pas que dans la clandestinité, parce que là, il est tué, c'est un resto clandestin. Il est également cuisinier pour le Mas des Collines. Et la propriétaire, qui est le grand personnage du livre, c'est Lou, et oui. qui a un passé chargé. Elle est ancienne militaire combattante en Afghanistan. Elle est en deuil de sa compagne et est fâchée avec sa fille. Et il y a tout un aspect aussi poétique dans votre roman. C'est pas une comédie. Il y a tout un aspect qui est quand même relativement triste.
Ah ben bien sûr, ce que j'aime beaucoup dans le roman de genre, dans le roman noir, c'est faire jouer ces deux tonalités, c'est-à-dire de parler de choses plutôt terribles, mais en essayant de relever, enfin de pimenter un petit peu la transformation du réel avec de l'humour, ce qui donne quand même une distance et qui permet aussi de s'identifier à des personnages qui ne sont jamais complètement des bourreaux, ne sont jamais complètement des victimes, mais sont des êtres humains un peu contradictoires, enfin bon, etc. Sauf dans ce cas précis où j'ai choisi que finalement et la victime et les coupables de ce meurtre soient dans une forme d'abstraction, disons, puisque c'est quand même un meurtre à l'aveugle et avec des gens qui sont insaisissables, c'est-à-dire c'est pas... ça n'a rien de psychologique, c'est-à-dire il n'y a pas de meurtre pour raison psychologique, de jalousie.
Non, les bons vieux motifs marchent toujours.
Voilà, c'est plutôt des motifs de pouvoir, donc c'est ça a à voir avec la mondialisation, ça a à voir avec des choses qui sont très proches de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire où l'accablement ne vient pas d'une personne, mais d'un système qui est écrasant, quoi. Voilà.
Et il y a trois personnages qui sont fantastiques, c'est les trois vieux qui sont en pension chez Lou, qui sont agités, qui sont rebelles, qui sont charmants, qui sont... Enfin, je suis tombé amoureux des trois vieux, là.
Ah, mais ça, moi, c'est des personnages que j'aime beaucoup, parce que c'est des personnages qui, pour moi, représentent ma génération, c'est-à-dire bon, bah, les 68ards, en gros. Bon, cette génération qui a eu beaucoup de chance de passer entre les gouttes, entre les guerres, un peu entre les récessions qui ont en grande partie quand même souvent évité le chômage, évité vraiment les grands maux de notre époque pour vivre plutôt de façon privilégiée, c'est-à-dire en dehors des grands conflits et des grandes misères, et qui ont gardé une sorte de forme comme ça, à la fois de résistance contre les interdits. Enfin bon, ils sont restés quand même dans le bon vivre, avec beaucoup en même temps de mauvaise foi, d'égoïsme. Enfin bon, mais c'est des personnages que j'aime beaucoup. Et puis ça m'amusait aussi d'imaginer que finalement, ça, c'était quand même un côté très très optimiste du livre, que en 2044, des gens trouvent des solutions un petit peu imaginatives pour s'occuper des vieux et ne pas les laisser mourir dans des EHPAD atroce, mais qu'on arrive à mettre plusieurs retraites ensemble pour faire une sorte de lieu de vie plutôt sympathique où on a une senior sitter qui s'occupe de vous, enfin, etc. quoi.
Eh bien, écoutez, c'est fantastique. Si vous voulez vous régaler, moi, je vous recommande Nos derniers festins de Chantal Pelletier qui est paru chez Gallimard dans la série noire. Merci beaucoup, Chantal Pelletier.
On va
s'écouter Les Cornichons de Nino Ferrer parce que ça s'impose.
De la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet pas, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons.
Enquêter sur un garde des Sceaux de la République française n'est pas une chose aisée. C'est pourtant la tâche un peu folle que se sont assignés Ginny et Paul, les deux amis lanceurs d'alerte, personnages principaux du roman Le collier du rat noir, paru aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube noire. C'est une affaire compliquée et sordide, comme nous allons le voir avec son auteur. Bonjour Pierre Chiron.
Bonjour.
Donc un historien et une journaliste de mode qui enquête sur un ministre de la justice, ce n'est pas banal. Qu'est-ce qui motive Ginny et Paul, vos personnages ?
Ben, écoutez, je crois tout simplement que ce sont des bons citoyens, des gens qui tiennent plus que tout à la justice et qui sont offusqués de voir que certaines personnes haut placées échappent à la justice. C'est tout simple.
Et ils sont surtout amis et complémentaires aussi.
Alors là, oui, ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est leur relation. C'est un couple un petit peu atypique, mais je développe l'idée d'une véritable amitié et l'idée qu'une amitié, ça ne s'explique pas. Elle, c'est une très jolie jeune journaliste, très brillante, mais qui n'est pas très hétérosexuelle, dirons-nous. Ouais. Et quant à lui, ben c'est un homme universitaire qui a une petite soixantaine, qui est donc un petit peu en fin de carrière, mais qui est libre. Plus libre aussi dans sa façon de d'organiser sa vie, parce que leur activité suppose quand même un petit peu de disponibilité.
Oui, et puis ils s'arrangent entre eux, on verra ça un peu plus tard, mais ils enquêtent aussi sur un ministre qui est lui-même peu banal. Parce que c'est un immigré polonais venant d'une famille très pauvre, handicapé par une poliomyélite qu'il a attrapée à l'adolescence. Et il n'avait rien pour penser arriver un jour à ce poste prestigieux, hormis son extrême intelligence.
Voilà, hormis son extrême intelligence et une énergie vitale absolument extraordinaire.
Mais le problème, c'est que c'est avant tout un sale type.
Énergie vitale, ça veut dire aussi puissance sexuelle, et toute son expérience sociale l'a remplie d'un très violent désir de vengeance.
Et donc ils partent, Ginny et Paul, ils partent sur une plainte qui a été retirée d'ailleurs, très rapidement.
C'est une première piste, effectivement, une affaire assez banale de harcèlement sexuel. Mais la pression du pouvoir est telle que les femmes renoncent à leurs plaintes. Mais ça fait quand même l'objet d'un entrefilet dans un journal qui suffit à attirer l'attention de mes deux enquêteurs.
Et donc, comme on disait tout à l'heure, ils sont complémentaires. Paul et Ginny se partagent les tâches. Et d'ailleurs, ça apparaît dans l'écriture de votre roman parce qu'ils ont chacun un chapitre pratiquement.
Oui, c'est une écriture à deux voix, mais évidemment je tenais sur une affaire pareille, qui est une affaire de violence extrême, de violence sexuelle, je tenais absolument à ce qu'il y ait les deux points de vue, le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme.
Mais on dirait pas que vous changez d'écriture entre les deux?
Bah écoutez, j'ai glissé des traits particuliers, ils ne s'expriment pas tout à fait de la même façon, ils n'ont pas le même point de vue. Et en même temps, c'est une œuvre commune, c'est-à-dire qu'ils ont chacun relu ce que l'autre a écrit. C'est vraiment un roman à deux plumes, si j'ose dire.
Et donc, ils commencent à enquêter sur Mirko, et là, c'est des soupçons beaucoup plus graves qui arrivent par rapport à des disparitions qui ont eu lieu dans l'enfance, dans la jeunesse de Mirko.
Voilà, une coïncidence de date et de lieu. Une affaire qui n'a pas été résolue, une affaire de disparition de jeune fille. Mais les deux enquêteurs font le lien entre ce crime impuni et l'affaire de harcèlement.
Mais c'est là qu'on en arrive un peu sur l'actualité. C'est-à-dire que Mirko, tel que vous le dépeignez, il est sûr de son impunité.
Oui.
Il pêche par excès d'arrogance, mais enfin, toutes les manœuvres politiques sont permises, toutes les pressions, toutes les intimidations. C'est-à-dire que Ginny et Paul, vraiment, vont se retrouver presque poursuivis comme des criminels.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, je ne crois pas que ce soit de la légende.
Non, effectivement, puisqu'on a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, des lanceurs d'alerte qui ont été eux-mêmes jugés au Luxembourg.
Tout à fait, tout à fait. Ça, il me semble que le pouvoir... quand il est menacé, peut lui-même devenir très, très, très agressif.
Et ce qui est frappant aussi, c'est que Paul enquête dans le village d'origine de Mirko, etc. Et c'est qu'on s'aperçoit assez vite que tout le monde sait.
Oui, oui, oui. C'est la loi du silence, c'est l'omerta. C'est la peur du personnage qui est à la fois proche et lointain, et très fort, donc menaçant.
Et puis il y a aussi le fait que les journaux ne prennent pas la balle au bon.
Et bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a tout, comme dans ces histoires de pouvoir, tout le monde se tient un petit peu par la barbichette. Les menaces sont vite lancées. Les gens ont toujours un petit peu de choses à se reprocher ou d'ambitions à réaliser. Donc ça suffit pour expliquer que les nouvelles choquantes aient du mal à parvenir au public.
Est-ce que c'est le début d'une série? Est-ce qu'on va retrouver Paul et Ginny dans d'autres aventures?
Écoutez, j'ai déjà publié un roman avec un personnage de vieille institutrice qui faisait l'enquête, et on m'a demandé si je voulais en faire une sorte de Miss Marple. Écoutez, j'ai déjà écrit le suivant, et c'est quelque chose de tout à fait différent. Ça se passe dans une île grecque, et c'est un huis clos. Mais qui a lui aussi sa dose de violence. Non, non, peut-être qu'un jour, je repartirai. L'idée de faire enquêter deux personnes et de faire raconter la même histoire par deux personnes, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a...
Donc tout espoir n'est pas perdu.
Donc, voilà. Rien n'est impossible.
Eh bien, merci beaucoup. Et je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est Le collier du rat noir de Pierre Chiron, qui est paru aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube noire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
This is a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach of children. Don't you talk to strangers. Get your philosophy.
Parlait de lanceurs d'alerte, eh bien on s'est écouté tranquillement Warning de Green Day. Après l'arménien en 2017, voilà le retour des Nuits Nantaises avec Le Sicilien paru aux éditions La Joanie. 10 ans se sont écoulés depuis l'histoire précédente. La mode, la musique et les fringues ont changé, mais pas la faune louche entend Nantes à la nuit tombée. C'est ce que va nous expliquer l'auteur Carl Pinault. Bonjour Carl.
Bonjour Patrick.
Alors un Sicilien après un Arménien, il n'y a plus de Nantais à Nantes dès que le soleil est couché?
Alors oui, l'idée c'était quand même de montrer aussi l'effet multiculturel de notre ville. L'Arménien, c'est un gamin qui était arrivé d'Arménie après le massacre de ses parents et dont on observait la difficulté à s'intégrer dans notre société nantaise des années 80. Le Sicilien, c'est le héros du livre, malgré lui, principal suspect du meurtre d'une Albanaise. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes histoires, mais effectivement...
Ni sur la même époque.
Ni sur la même époque, tout à fait.
Alors, ton héros, c'est Dario, il est Sicilien, évidemment. Et il fête son anniversaire au boulot, il est serveur dans un bar de nuit qui s'appelle Le Château. Et survient une étrange jeune femme, donc l'Albanaise, qui va déclencher une avalanche d'ennuis, tous plus graves les uns que les autres. Le Dario, on ne sait pas trop où il se situe, c'est pas un truand, il n'est pas rangé, on ne sait pas trop où le situer au départ.
Ouais, c'est ça que j'aime bien créer, en fait, c'est des personnages un peu ambivalents qu'on va réussir à découvrir au fur et à mesure du récit et qui vont eux-mêmes se découvrir au fur et à mesure du récit. Mais mes personnages sont rarement ou tout bons ou tout mauvais. Ils sont un peu comme tout le monde. Ils sont humains avec leur part d'ombre et leur part de lumière. Et Dario en fait partie. Il a un passé sombre. Son père le battait. Son père est décédé en Sicile. Il est arrivé à Nantes. Et il a une histoire forte avec sa tante. Donc oui, c'est un personnage qui est ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais.
Mais en même temps, il est serveur dans un bar de nuit, il est parti en Asie du Sud-Est. Et c'est pas un peu autobiographique tout ça, parce que tu as fait un peu la même chose.
Alors c'est pas autobiographique dans la mesure où, de la même manière que dans l'Arménien, je suis aucun de mes personnages.
Mais t'as pas tué d'Albanaise non plus.
Voilà, j'ai pas tué d'Albanaise. La seule chose, c'est comme un peu tous les gens qui écrivent, on s'accroche quand même à une part de réalité, d'abord dans les décors. Moi, d'écrire les Nuits Nantaises, j'y ai travaillé quand j'étais jeune, donc c'était quand même assez facile pour moi de décrire ces ambiances, surtout à l'époque où les gens fumaient encore, donc c'est ce que je voulais décrire dans les années 80. Le Sicilien, c'est pas moi, mais en même temps, ce qu'il pense peut, de temps en temps, sortir de ma tête, donc bien évidemment. Mais je suis pas tué d'Albanaise, j'ai travaillé dans les discothèques, j'avais pas les mêmes mœurs que mes personnages, mais tout ça est
romancé
de façon à donner. Voilà, bien sûr, ouais, tout ça est romancé de façon à la fois décrire une société et une époque, une décennie, et en même temps amener les gens à vivre quelque chose d'un peu extraordinaire dans un patch-turner, et puis avec une surprise à la fin.
Oui, mais on sait bien qu'on comprend vite que Dario, il est complètement paumé, quoi, parce qu'il est d'origine un peu incontrôlée, il se rappelle plus du tout ce qui s'est passé avec son père. Et il est élevé par sa tante, qui est une juge influente, avec qui il a eu un accident de voiture, la pauvre femme est paralysée, elle reste sur son lit. Et très vite, Dario lui-même s'aperçoit qu'il ne peut se fier absolument à personne et qu'il ne contrôle rien.
Absolument, il peut se fier à personne, même pas à lui-même. C'est-à-dire que, comme c'est un enfant qui a été battu par son père et qui, de temps en temps, perd conscience quand il y a des résurgences, eh bien, de cette soirée-là où l'Albanaise a été assassinée, il ne se souvient pas de tout. Et donc, ça ajoute au suspense parce que le lecteur peut se dire, et lui-même se dit, et peut-être est-ce même moi. Et en même temps, c'est un peu le cas de tous les personnages qu'on croise dans ce récit. J'aime bien faire des récits où chacun des personnages, finalement, pourrait avoir eu une raison d'être le coupable. Bien évidemment, tout le monde n'a pas tué.
Et donc, ce pauvre Dario, il va lui en arriver, mais alors des vertes et des pas mûres et des pires en pire. Et qu'est-ce qu'il fait continuer? Qu'est-ce qu'il tient? Il veut quoi? Il veut savoir d'où il vient? Il veut... Qu'est-ce qu'il pousse? Parce que quand même, au bout d'un moment, on pourrait renoncer, quoi.
Alors je pense que ce qu'il fait tenir et ce qui fait qu'il va aller jusqu'au bout de l'histoire, plus même que de savoir qui a tué cette Albanaise, c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa compagne Leila, qui a disparu le lendemain du meurtre. Donc ça, c'est vraiment le moteur du personnage qui va l'amener à lutter, à ne pas lâcher, à ne pas quitter Nantes, à ne pas fléchir devant tout ce qui lui arrive, parce que il veut savoir ce qui est arrivé à sa compagne.
Est-ce qu'il n'est pas pris un peu dans une histoire qui est trop grande pour lui ?
Oui, absolument, absolument. C'est un type normal, c'est-à-dire il est arrivé en gérant de discothèque, barman de discothèque, parce que c'est un très bon barman, mais c'est pas véritablement, comme tu le disais, un grand voyou. C'est pas un gars qui se prétend être quelque chose d'exceptionnel, non. C'est un gars de tous les jours, un gars ordinaire, oui, absolument, absolument, pris dans quelque chose d'extraordinaire.
Et est-ce qu'il y a bientôt d'autres épisodes des Nuits Nantaises à suivre?
Alors mon idée, quand j'ai commencé l'idée des Nuits Nantaises, elle est venue quand j'étais en création littéraire au Québec, et j'ai eu l'idée de créer trois histoires indépendantes, trois polars sur trois décennies. Donc le premier, c'est les années 80, c'était l'arménien, la folie des années 80. Le deuxième, c'est celui-ci, c'est le sicilien, donc 95. On est au milieu des années Sida, le mur de Berlin est tombé, on voit arriver les mafias de l'Est. Donc c'est une autre peinture d'une autre décennie. Et effectivement, je suis en train de finaliser le troisième qui se passera dans les années 2000 et qui dépeindra aussi une autre décennie. Avec mon idée, c'était aussi de faire monter en puissance mon inspecteur, qui n'est pas le narrateur du premier, qui est de nouveau pas le narrateur du deuxième, puisque c'est le Sicilien qui raconte l'histoire,
oui.
Et qui sera du coup, on trouve quand même un peu plus ce qui est ce Greg Brand, qui est cet inspecteur. Et enfin, dans le troisième récit, celui des années 2000, eh bien, c'est lui qui racontera l'histoire. Et du coup, il permettra au lecteur de rentrer dans sa tête et de voir le monde par ses yeux.
Mais il y a un fil rouge quand même. C'est-à-dire, on peut très, très bien lire le Sicilien sans avoir lu l'Arménien. C'est absolument pas un problème. Mais par contre, tu gardes le fil rouge, c'est la pègre locale.
Alors, le fil rouge, c'est aussi, c'est aussi une photo de la société et de sa délinquance. Évidemment, la délinquance des années 80 n'est pas la délinquance qu'on va retrouver dans les années 2000. Et pourtant, il y avait dans les années 80 les prémices de la délinquance des années 2000. La délinquance des années 90, eh bien, avec le mur de Berlin est tombé, ça a redessiné l'Europe. Et donc, on voit arriver sur la France des mafias de l'Est. On va assister dans toutes ces années au déclin de ce qu'on appelait le milieu nantais, c'est-à-dire des caïds du milieu qui tenaient un peu la pègre locale.
On voit qu'ils changent un petit peu d'alliance d'ailleurs.
Ben oui, c'est-à-dire qu'ils sont comme tous ceux qui sont en perte de vitesse, ils sont obligés de se dire ben, comment je fais pour me maintenir. Donc je concrétise plus ou moins des alliances avec des arrivants qui sont parfois beaucoup plus violents que ce que nous on était capable de faire. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur la France au niveau de la délinquance. Donc c'est aussi une partie de la photo de la société, sachant que Nantes est l'exemple d'une ville, c'est la cinquième ville de France, donc c'est l'exemple d'une ville qui a vécu l'évolution sociétale comme tout le reste de la France.
Eh ben merci beaucoup Karl. Donc pour découvrir les aventures de Dario, il faut lire le Sicilien de Karl Pinault qui est paru aux éditions La Joanie. Il y a un peu de musique dans le bouquin, forcément dans le milieu de la nuit, et on va se quitter avec un petit Freddie Mercury.
Ah génial. Ouais, génial.
Living on my own.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
Le coin de l'édition maintenant est un anniversaire à fêter, les 70 ans de Fleuve Édition, auparavant Fleuve Noir jusqu'en 2013. Plus d'un milliard de livres vendus, 1000 auteurs publiés, plus de 10 000 titres au palmarès. Moi, je me souviens avec un brin de nostalgie des couvertures dessinées des San Antonio et autres OSS 117 et Coplan avec le héros à flingue au poing et toujours une superbe fille ingénue ou femme fatale. Au corsage prêt à exploser. Aujourd'hui, l'aventure continue et la directrice éditoriale du domaine français de la Vénérable Maison est avec nous. Bonjour Nathalie Benin.
Bonjour.
C'est un formidable héritage que ce catalogue de la maison Fleuve Noir, avec tous les San Antonio, Coplan, OSS. Est-ce que ça va reparaître un jour d'ailleurs ?
Alors écoutez, il faudrait poser ça à... La question, enfin, je doute que notre directeur éditorial, qui est celui qui dirige Fleuve Édition, qui s'appelle Florian Lafani, et qui dirige toute la maison, moi je m'occupe modestement du domaine français, je doute qu'il ait envie de rééditer les Coplan, mais comme je suis dans la maison depuis très 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 longtemps, vous avez la personne qui a travaillé sur les Coplan, je sais que ça semble très lointain, mais je doute qu'on les réédite.
Et donc la ligne éditoriale du domaine français, donc on va en parler un petit peu, la ligne éditoriale des éditions Fleuve, de Fleuve Édition aujourd'hui.
Alors écoutez, il y a deux domaines, il y a le domaine français et le domaine étranger, alors je vais vous parler de ce que je connais le mieux et ce sur quoi je travaille, le domaine français. Alors effectivement, il y a des choses très axées sur... le roman policier dans son acceptation la plus large, c'est-à-dire que effectivement on a notre auteur de thriller que tout le monde connaît parce que c'est un auteur qui marche très très bien, qui est Franck Tillet, donc qui a sorti cette année
Lucas.
un roman assez exceptionnel qui s'appelle Lucas. Et qui a ceci d'intéressant, c'est que par rapport au premier roman de Franck Tillet, qui était assez catalogué comme le nouvel auteur français du thriller, un peu du techno-thriller, au fil des romans et en reprenant pour ce qui est de Lucas son couple fétiche d'enquêteurs, il arrive à décrire le monde dans lequel nous vivons avec l'influence croissante des GAFA, la manière dont Amazon, Google, Facebook entrent dans nos vies et comment cela modifie effectivement notre environnement. Et donc moi ce que je trouve intéressant dans Lucas, c'est qu'il a vraiment effectivement écrit un thriller d'enquête, mais dans un contexte très très réaliste et qui pour moi a à voir avec la grande tradition du polar qu'on aime, c'est-à-dire de dire le monde dans lequel nous vivons, le monde tel qu'il est, de raconter le monde. Et ça, je trouve ça très intéressant, ce qu'il a abordé comme sujet et surtout la manière dont il l'a abordé.
Oui, parce qu'en plus, après... il parle de PMA, de GPA, etc.
Voilà. Et donc je lui ai dit d'ailleurs que je trouvais qu'il y avait quelque chose dans ce roman qui le ramenait à cette tradition qu'on a vu naître avec le néo-polar, c'est-à-dire où le polar avait pour vocation première de dire le monde. Voilà, et ça m'intéresse. Après, dans cette même veine, on a un jeune auteur, enfin qui est un auteur jeunesse qui s'appelle Bertrand Puard. Qui est quelqu'un qui est plutôt connu, donc il avait reçu un prix à Cognac en 2012 pour Les Effacés,
oui.
Et un autre pareil à Cognac pour Musique de nuit, qui était son premier roman adulte, et là il est revenu au mois de juin avec Ristretto, qui est une sorte pareil de thriller, d'enquête, et avec une thématique forte qui est le marché du café, qui est un marché, on pourrait presque dire le nouvel or noir. Et Bertrand Puard, qui est quelqu'un qui a travaillé dans la finance et qui a été déontologue, a créé un personnage de femme qui travaille aussi dans une grande multinationale de la finance qui s'appelle la Premium. Et son personnage de Clara est elle-même déontologue. Alors ce que je trouvais intéressant, c'est que l'auteur ayant pratiqué ce métier, ça lui sert effectivement pour créer ce personnage qui est un peu en scission avec son milieu, puisqu'elle donne sa démission, elle essaye de vivre une vie à peu près normale avec son enfant, avec son fils, et puis finalement elle est rattrapée par son passé de financière et devient l'objet, elle est pourchassée aux quatre coins de la planète. Alors ça raconte en creux effectivement tout ce qu'on subodore sur la finance, les mails.
Il y a des choses absolument extraordinaires quand il raconte qu'ils vendent 50 fois la production annuelle de café dans la journée.
Voilà, donc ça c'est des données dont on peut être sûr qu'elles sont réelles, et le dans le roman, bon, puisqu'on parle de fiction, dans le roman, cet enjeu qui est le marché du café, avec des passages qui se passent en Amérique latine, en Europe, etc., montre combien les mafias, qu'elles soient en col blanc ou en col bleu, sont toujours à l'œuvre dès qu'il s'agit de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Ouais. Donc je trouve que c'est très original. Et voilà.
Et Ristretto, quand on lit Ristretto, je viens de le finir, on reconnaît très 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 bien des personnages réels quand même dedans.
Écoutez, je n'ai pas poussé cette réflexion jusque-là. Moi, je trouve que c'est un polar qui fonctionne très bien, qui est très rythmé, qui, en fait, on apprend plein de choses sur le monde du marché du café. Personnellement, je me contente d'en boire, mais je trouve que c'est un thriller. Enfin, on dit thriller, polar, maintenant, thriller est devenu le terme générique pour désigner le polar. Donc on peut le dire sans honte, c'est un thriller qui est vraiment en phase avec son époque, je trouve.
Et donc, Fleuve Édition, vous êtes à la recherche donc d'auteurs français parlant du monde d'aujourd'hui. C'est ce qui vous intéresse.
Alors, voilà, on peut dire les choses comme ça. Alors effectivement, on a des romans qui sont un peu plus classiques. Je pense à un auteur extrêmement talentueux, une auteure extrêmement talentueuse qui est Elena Piacentini. Donc en août, fin août, va sortir Vaste comme la nuit.
Il se passe à Dieppe, je crois.
Pardon ?
Il se passe à Dieppe, je crois.
Exactement, et tout à fait. Et en fait, son héroïne, la capitaine Mathilde Sénéchal, qui était l'héroïne de Comme de longs échos. Comme de longs échos était sorti il y a 2 ans et avait eu le prix Transfuge du meilleur polar français quand même. Alors là, on est dans une veine plus classique, plus intimiste, avec Mathilde Sénéchal, donc qui a cette particularité qu'elle est extrêmement sensible aux odeurs. Et en fait, c'est une introspection, elle va remonter le temps et se servir de cette hypersensibilité olfactive pour mener une enquête et comprendre ce qui s'est passé l'été de ses 9 ans. Et voilà, donc c'est à la fois un roman psychologique, on peut le dire ça, un polar psychologique, et en même temps, il y a une noirceur qui le tire plutôt du côté du roman noir, voilà.
Donc ça, ce sera plutôt pour les prochaines sorties.
Ça sera très prochainement, ça sort au mois d'août. Alors
oui, le 22 août même, précisément, je crois.
Ouais, mais vous en savez plus que moi, c'est parfait. Et puis alors, pareil, fin août, mais alors là, c'est carrément le tout début septembre, le 3, le 4 ou le 5, je ne sais pas, mais enfin, c'est tout début septembre. Il y a un roman que j'aime tout particulièrement parce que extrêmement atypique, qui est un roman qui s'appelle Bracos au samouraï, d'un certain Johan Zarca. Alors Johan Zarca, c'est un auteur qui avait eu le prix de Flore en 2017 pour Panama Underground, qui a été paru aux éditions Goutte d'Or. Et il reprend donc, dans ce Bracos au samouraï, il reprend, alors en beaucoup plus drôle, ce phrasé qui est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire une sorte de langue totalement débridée, fait d'argot un peu à la Audiard, mais surtout d'argot rebeu, d'argot manouche, de titi parisien. Enfin voilà, il a vraiment, il parle comme ça, donc il a vraiment cette langue extrêmement truculente qui en plus est servie par une histoire très, comment dire, très, très adapté à la langue, puisque il a trois héros qui sont trois copains qui zonent un peu, sont vraiment des pieds nickelés dans toute leur splendeur, au sens où bon, ils ont toujours des idées farfelues, mais c'est quand même une brochette de bras cassés. Et en fait, ils vont essayer de monter un braquage qui va être une plantade absolue. C'est extrêmement drôle, c'est très jouissif au niveau de la langue. Alors je ne sais pas si si vous connaissez chez certains groupes de hip-hop ou de rap, ça me fait vraiment penser au texte de Seth Gecko. Alors je sais que ça date d'il y a 10 ans ou 15 ans, mais dans les premiers albums de Seth Gecko, il y a cette langue qui fait beaucoup penser à François Villon, extrêmement virtuose. Et c'est ce qu'on trouve là, c'est-à-dire que on est dans une sorte de polar totalement drôlatique, façon Westlake. Hein, si vous lisez, je sais pas, Dégâts des eaux de Westlake, vous avez aussi des bras cassés comme ça qui essayent de monter des plans dont on sait d'avance qu'ils sont voués à l'échec. Et là, on pense, voilà, cette tradition du polar marrant, je sais pas comment le dire autrement, drôle. Et sauf que c'est dans une langue extrêmement actuelle, voilà. Alors il faut se laisser embarquer dans cette langue, et ensuite on a une histoire extrêmement intelligente, drôle, et voilà, c'est très très jouissif comme lecture.
Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Benard. On sait tout maintenant sur les sorties qui vont avoir lieu chez Fleuve Édition. On va se quitter avec une musique que j'ai piquée dans La Rage de Zygmunt Milosevski, qui est paru chez vous, un auteur polonais de grand talent. C'est Baby Can I Hold You de Tracy Chapman. Merci beaucoup, Nathalie Benard.
It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby.
Vous pouvez pouvez retourner maintenant bronzer tranquillement. N'oubliez pas de prendre un bon roman. Il n'y a rien de mieux pour se protéger des UV. Enfin, je crois. Bonnes vacances. Bye bye.
Des polars et des notes.